Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, il était 5h hier et plus aujourd'hui, et vous êtes bien dans Vacarment Réunion. On est aujourd'hui avec Sandy.
Salut. Sandy. C'est ça, ouais.
Et on va parler de... à nouveau, on va continuer notre cycle sur habiter la rue et les questions de prévention situationnelle aujourd'hui. Voilà.
Du coup, on voulait revenir sur un article qui est paru dans le Bien Public le 9 octobre. Que tout le monde a vu au moins la manchette, qui s'appelait « Les marginaux de trop ». Du coup, c'était un article complètement scandaleux, qui est sorti le 9 octobre, et qui revenait sur la question de ce qu'ils appellent les marginaux, c'est-à-dire les SDF, les zonards, les gens qui habitent dans la rue, les gens qui squattent un peu par terre pendant la journée. Il y a déjà eu pas mal d'articles dans le Bien Public sur ça ces derniers mois, puisque depuis la mort de Mika, il y avait eu tout un panel d'articles qui étaient d'abord au départ un peu qui étaient très abusés et qui transformaient un peu les faits sur la mort de Mika, etc. Puis ensuite, quand il y a eu d'autres SDF qui sont morts, il y a eu Céline, puis Bébert, et ben il y a eu aussi des articles pour dire un peu que la situation elle était un peu rude dans la rue, etc. Et puis là, on a un article scandaleux qui laisse beaucoup de place en fait à la parole de Michel Julien, qui est le délégué à la sécurité, à la tranquillité publique de la ville de Dijon, et qui explique que voilà, il y a de plus en plus de marginaux dans les rues de Dijon, que c'est parce que les Dijonnais sont trop généreux, qu'ils donneraient trop d'argent, et que du coup, ça devient trop rentable de faire la manche, et que du coup, il y a des gens d'autres villes qui viendraient à Dijon parce qu'ils apprendraient que c'est tout à fait rentable de faire la manche à Dijon. Et puis il y a plein de petites anecdotes comme ça superbes dans cet article. Et entre autres, ils disent aussi que du coup, la ville réfléchit à occuper le territoire. Et ils développent un petit peu et ils expliquent qu'ils vont essayer de reprendre des activités culturelles, et essentiellement dans la rue de la Liberté, parce qu'ils savent que quand il y a des événements culturels, au moins on ne voit pas ces gens-là et que ça permet de les chasser un peu des rues du centre-ville. Et du coup, de contenter un peu les commerçants. Parce qu'apparemment, c'est surtout les commerçants du centre-ville quoi, qui gueulent après la présence de tous ces gens dans les rues. Parce que ça fait pas très propre, quoi, ou des choses comme ça.
C'est pas très tranquille.
C'est pas très tranquille, quoi, pour la tranquillité publique. Ça marche pas. Donc voilà, nous, on était assez scandalisés de cet article, essentiellement parce que c'est une des premières fois, en tout cas moi personnellement, que je lis dans une déclaration de la mairie, de l'État, enfin d'un service d'autorité qui assume de façon aussi explicite que voilà, la culture ça sert à virer les pauvres, qu'on peut s'en servir comme ça, qu'on peut organiser des petits événements culturels dans la ville et que ça permet d'occuper le territoire comme ils disent et de dégager les gens, les indésirables de la rue. Du coup, nous, c'est une stratégie dont on a déjà parlé dans Vacarment Réunion, parce que on soupçonne bien que derrière ces petites activités, il y a des fins gouvernementales. Mais voilà, là, c'est annoncé explicitement, et ils s'en flattent, et ils disent, c'est très bien, ça marche, on va continuer.
Avant de quand même énoncer que la générosité est un problème,
oui.
Ce qui, quand même, est aussi assez inhabituel, surtout venant d'élus de gauche, hein. Même cet élu, là, c'est un ancien du... Il vient du Parti communiste, apparemment, ouais. Le délégué à la tranquillité publique. Alors bon, c'est assez inhabituel. Bon, c'est pas forcément incompréhensible, hein, mais c'est vrai que c'est un peu gros, quoi. Voilà.
Et nous, quand on est allé à la Marche Blanche pour la mort de Mika, et puis suite à tout ce processus-là, on avait rencontré quelques personnes qui vivaient dans la rue, et entre autres, on a rencontré Marine, qui avait envie de venir parler de tout ça à la radio, et qui nous disait, entre autres, quand on l'a vue cette semaine, que c'est absolument scandaleux d'affirmer des conneries pareilles à propos de combien tu gagnes quand tu fais la manche dans la rue, ou des trucs comme ça, quoi, qu'elle disait que c'était pas vrai du tout, que tu gagnais pas plus de thunes à Dijon qu'ailleurs, etc. Du coup, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus scandaleux dans cet article, mais entre autres, elle ça l'a choqué un peu, parce qu'elle disait que c'était des conneries, c'était n'importe quoi, qu'il y avait pas du tout des gens qui venaient d'ailleurs parce qu'on gagnait plus d'argent, etc. Enfin, qu'elle, ça lui paraissait vraiment n'importe quoi. Voilà. Du coup, on l'a rencontrée, elle est venue parler avec nous ici au studio cette semaine, et du coup, on a parlé avec elle de qu'est-ce que c'est un peu vivre dans la rue, et puis surtout de la présence des flics et de rapport un peu à tous ces gens de la rue avec la police. Du coup, on vous laisse écouter tout ça.
Les gens ne comprennent pas que tu vis en camion et que tu es heureux de vivre en camion. Pour eux, tu vois, la vie, c'est métro, boulot, dodo. Tu rentres chez toi, tu prends ta douche, t'es propre, tu regardes la télé, tu manges un repas, tu vas te coucher, puis en même temps, tu rentres au travail. Pour moi, c'est pas ça. On va aller quitter pour prendre une dispo pendant 2 semaines. Moi, je vis dans mon camion, à 7h du matin, je me réveille, je prends des méchants. Ouais, je suis heureux. Même si je suis sage, je m'en bats les couilles. Tu
vois. Ok, parce qu'on est tous des punks à chien. Tous. Bouge bien.
Enfin, les gens qui vivent dans la rue et que je croise, tu vois, quand je me balade à Dijon, ils me font jamais pitié, tu vois. Genre, il y a pas ce truc là. Au milieu de la ville, tu vois, qui est quand même un peu flippante, comme tu disais, la ville petite bourgeoise, machin truc, où tout est hyper lisse, hyper cadré, quoi. Au final, c'est un peu des gens qui m'amusent aussi, tu vois, de voir comment ils vivent, comment ils sont ensemble. Tu vois, je sais pas, en fait, ils ont une vie qui est plus proche de la mienne, par exemple, à se dire, bah voilà, on est potes, on va aussi vivre autrement que juste tracer dans la ville et aller dans des boutiques et je sais pas quoi. On va prendre le temps de se poser, de boire des bières. Bon, alors pour le coup, là, peut-être vous vous dites pas on va prendre le temps de faire ça, c'est juste le temps, vous l'avez, et là, il est là. Mais en tout cas, ouais, il y a pas un truc de pitié, quoi, ou de misère, quoi, qui me...
Non, parce qu'il y a aussi du positif, quoi. Il y a aussi du positif dans la rue. Moi, je prends mon exemple personnel, c'est pas... Tiens, j'étais à la rue, j'ai énormément souffert, enfin, voilà. On peut, la rue détruit, mais on peut aussi en prendre du positif. Il y en a aussi un peu. Et si on arrive à avoir le positif, ça peut aller. Quoi. Enfin, voilà, la rue, ça nous rend aussi plus fort. Donc voilà, je pense qu'ils arrivent à être optimistes, tout ça.
Mais du coup, c'est quoi? C'est le fait d'être ensemble
aussi, ouais.
D'être posé.
C'est pour ça aussi que je trouve ça dégueulasse que les flics veulent nous séparer. Quoi. On est toujours plus fort ensemble. Et voilà, on n'est pas quand on est assis par terre concrètement, on n'est pas en train de se lamenter sur son sort non plus, quoi. C'est il y a aussi beaucoup de bons à prendre, quoi. Et, peut-être qu'il y a pas mal de gens quand on fait la manche qui nous ignorent, qui nous envoient chier, qui nous disent d'aller travailler, etc. Mais on fait aussi des rencontres qu'on pourrait pas faire, voilà, quand en ayant une vie banale et en traçant sa route comme ça. Là, on prend vraiment le temps de faire les choses voilà, on regarde vraiment le monde, tout ce qui est autour de nous et tout. Et il arrive qu'on fasse des rencontres quand même belles qu'on ferait peut-être pas dans une vie plus rangée.
Toi, t'as rencontré des gens comme ça qui t'ont marqué?
Ouais, carrément, et même aujourd'hui. En étant, on a toujours des petites rencontres comme ça à faire en s'ouvrant plus aux gens extérieurs. Il suffit qu'on rencontre quelqu'un qui est dans la même optique que nous. Et voilà, on peut apprendre de ça, quoi. Je trouve ça vachement beau, quoi. Donc, s'il y a du négatif, il y en a beaucoup. Mais il y a quand même un peu de positif et voilà, humainement, c'est beau aussi, quoi. Enfin, ouais, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'en sortir. Après, c'est pas... Les gens pensent que c'est la majorité des personnes, mais bon, je suis pas de cet avis-là. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de retrouver une vie banale aussi, avec le métro, boulot, dodo, enfin, je sais, voilà. Parce que, étant dans la rue, il y a beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, de choses à voir, de gens à rencontrer aussi, quoi.
Tu penses qu'il y a des gens qui sont faits dans la rue aussi parce qu'ils avaient pas envie de cette vie-là, quoi?
Ouais, carrément.
D'aller bosser toute la journée.
Je pense pas non plus que ça soit la majorité des personnes, quoi. C'est vrai que, en général, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, la rue, c'est un choix. Tout ça, bon, je suis pas d'accord, mais pour certains, c'est un choix quoi, de vivre voilà, là, en travers de, d'une vie banale, enfin, en travers d'une vie normale, dite normale, et de galérer, de faire autre chose, de ne pas, voilà, pas avoir d'horaire, de ne pas avoir d'obligation et tout. Et c'est tout à fait noble aussi, quoi. Enfin, c'est un choix de vie.
Je n'ai même pas le courage d'aller pointer au chômage. Oui, bien sûr, j'ai le bon âge de pouvoir placer dans ma vie tous mes talents innocents.
Les quelques années où j'ai commencé à tracer, j'ai beaucoup souffert de ça, de ce regard des gens qui considèrent qu'on est les pires gens, je veux dire les pires sauvages, alors qu'en fait, on a beaucoup plus de cœur là que vraiment quoi. C'est, je veux dire, nous on s'aime, on se fait des bisous tout le temps. Enfin, je veux dire voilà quoi. C'est, on n'est pas méchant. Bon, c'est vrai que des fois, ben oui, on se défonce trop, on se saoule, ça peut. Enfin, comme tout le monde hein, en fait. Hein, je veux dire.
Bah, de toute façon, dans toutes les classes, tous les gens, je sais voilà, pas, ils picolent.
J'ai pas peur de vous dire qu'on vole dans les magasins. Enfin, je veux dire, moi, je me cache de rien du tout de ce que je fais, quoi. Pendant 15 ans, on nous dit, il faut gagner de l'argent, t'as pas le choix. Et ben, pour s'en défaire de ça. Mais quand une fois qu'on en est défait, bah, y'a que de l'amour, c'est cool! Je pense que si un jour, une révolution ou une guerre ou je sais pas quoi en France, c'est nous qui nous en sortirons le mieux, quoi. Parce que bon, on dépend quand même beaucoup du système, encore trop pour nous. Mais on est quand même beaucoup, beaucoup plus autonome que beaucoup de gens, quoi. Je pense que là, toute la masse silencieuse qui se laisse avoir par les médias et tout ça, ils sont désemparés dès qu'il se passe quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas l'habitude, quoi.
Il a carrément raison, parce qu'on apprend à faire un peu des MacGyver, quoi, dans la rue, quoi. On apprend à faire tout avec n'importe quoi. Ouais, personnellement, j'ai mangé dans les poubelles d'un Super U pendant 6 mois et j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie, quoi. Enfin, y a plein de choses à apprendre de la rue, quoi. Et, le fait de pas avoir, entre parenthèses, toujours tout eu, avoir pas vraiment derrière si ça va pas, de savoir se débrouiller par soi-même, c'est vrai que, comme dit, s'il y avait une guerre, s'il y avait quoi que ce soit, on saurait faire énormément de choses.
Mais je sais pas si c'est proche de ça, mais en tout cas, il y a un truc de... Comment tu te sens vivant aussi quand tu je sais pas, quand tout d'un coup t'as à prendre en charge tous les pans de ta vie, quoi, que c'est plus prémâché par tu vois, de te reposer les questions, de recréer, quoi, d'avoir
c'est
les choses
clair,
un peu en main.
Tu dis que ouais, la vie c'est peut-être pas tout ce qu'on t'avait dit quand t'étais gosse à l'école, que c'était pas les études, le boulot et tout ça, quoi. En fait on se construit peut-être aussi un autre idéal de vie, puis on se dit que bah, le rêve c'était peut-être pas de voilà d'avoir une maison, d'avoir un chien et compagnie, quoi. Et c'est peut-être pas plus, enfin voilà, c'est trouver une richesse autre que, enfin voilà, c'est trouver pas la richesse de l'argent, mais pour moi, c'est la richesse du cœur, la richesse des voyages, la richesse des gens, tout ça. Et ouais, on se remet en question par rapport à ça. Et peut-être qu'au final, c'est aussi pour ça que les gens ne reviennent pas dans une vie toute carrée après, quand ils arrivent, à trouver des solutions pour s'en sortir et tout. Parce que tout simplement, ils n'en ont plus envie. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas parce qu'on avait de l'argent ou ce n'est pas parce qu'on avait un boulot stable et qu'on était forcément plus heureux, quoi. Après, ça dépend vraiment de l'expérience qu'on fait de la rue, de comment on vit tout ça et tout, quoi.
Mais toi, du coup, tu pourrais très bien ne plus trop, je sais pas, fréquenter ces gens-là, comme on dirait, ou tu vas te sortir de ce truc-là, quoi, vu que t'as un logement.
Ouais, je pourrais très bien. Après, bon, j'ai un logement, ça veut pas dire que, bon, je galère quand même un peu, quoi. Après, j'ai plus besoin, voilà, comme je disais, de faire la manche, tout ça. Mais je pense que, voilà, quand on est dehors, c'est important quand même d'avoir de connaître des gens, de parler avec des gens. Ouais, j'ai pas envie de passer dans la rue et de les ignorer. Enfin, voilà, c'est quand j'ai été à la rue, j'avais pas de famille, les amis. Bon, ouais, c'est cool les amis quand on va en soirée, quand on va boire un coup dans un bar, mais quand on fait la manche et puis qu'on les croise à 14h en plein milieu de Dijon, c'est un peu moins cool, quoi. Et puis même pas que par rapport aux autres, par rapport à nous, on n'a pas forcément envie que les gens de la vie d'avant nous voient comme ça. Donc quand on est dehors, on se soutient quand même un minimum les uns les autres. C'est comme une famille la rue. Et aujourd'hui, moi ça va mieux, mais c'est pas pour autant que voilà que c'est qu'ils font plus partie de ma vie, quoi. Ça reste une grande famille la rue et voilà quoi. J'ai pas...
Parlez-nous, bonnet, pour en été. À garder. que tu partes, pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les monstres qui s'envoient en l'air, alors qu'il y a des millions de voitures en sans carburant. Je suis inhumain, je suis inadapté. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats, ni les chiens. Je supporte très mal les morts et les blessés. Si c'est tout, je déteste le temps comme le miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis poussent. Mais j'ai plus fort que moi, il faut que je vois le mal partout. Je suis inadapté. Je n'aime pas les gens dans la gorge étranger et les yeux arrachés. Ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent de tombeau. Et je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot et y'a pas de quoi rire. Je suis inadapté. Je suis inadapté. Inadapté.
Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des arrêtés contre les groupes de plus de deux ou des trucs comme ça.
Ouais, ben, ouais, en gros, on peut pas s'asseoir à plus de... Si je me trompe pas, on peut pas s'asseoir à plus de deux personnes par terre. Et, enfin, le truc, c'est que si t'es un marginal, tu peux pas t'asseoir à plus de deux par terre. Mais si c'est un groupe de lycéens qui s'assoit devant les galeries Lafayette, ils sont 30, ils foutent les bordels et tout, ils se feront pas, ils se feront pas embêter par la police. Mais si t'es trois marginales assis par terre, quoi, faut tout de suite partir, quoi. Donc je trouve ça un peu abusé que cette loi, elle soit, enfin cet arrêté préfectoral ou cette loi, je sais pas vraiment, soit là que pour les marginales, quoi. Je veux dire, d'où une loi devrait être, devait être écrite pour qu'une catégorie entre parenthèses de personnes, quoi. Enfin c'est juste dingue. Et puis je pense que c'est quand même important quand on a la rue, quand on galère comme ça, d'être en groupe. Et qui nous enlève le fait d'être en groupe ou d'être ensemble, c'est juste, c'est quelque chose qui est encore là pour détruire les gens. Et je trouve ça un peu, je trouve ça abusé, quoi. Enfin, tout simplement, quoi. Enfin, toutes les lois sont pas là pour embêter les marginaux, mais quand on voit ce genre de trucs, c'est, voilà, on sent juste une injustice énorme. Mais c'est pas normal qu'on en arrive à un stade où il y a des lois comme ça, quoi. C'est abusé, quoi.
Du coup, ils viennent, ils vous séparent dès que vous êtes plusieurs, quoi. Ils vous disent, faut pas être ensemble, vous êtes trop nombreux, ou je sais pas quoi.
Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Ils nous disent, voilà, faut bouger, vous pouvez pas, voilà, il faut qu'il y en ait deux qui bougent, faut qu'il y en ait un qui bouge. Enfin, voilà, c'est ça qui nous disent souvent. Et quand on demande pourquoi, c'est, y a pas de pourquoi. C'est, pour eux, c'est pas eux qui établissent les lois, donc ils ont pas vraiment de compte à nous rendre. C'est... Les ordres, ils viennent d'au-dessus, donc eux, ils n'ont pas grand-chose à dire, quoi. Ils sont juste là pour appliquer les lois.
Et toi, tu disais que ce truc-là d'arrêter, c'était passé il y a déjà un moment, mais que là...
Ouais, c'est quelque chose qui parlait, que la police municipale parlait déjà avant. Enfin, la police parlait déjà avant. Et ils nous demandaient déjà à l'époque, juste avant l'été, de pas rester en groupe, justement. En tout cas, ce que je vois en quelques mois, c'est que c'est de pire en pire, enfin, qu'il y a une pression, concrètement une pression policière qui est de plus. Enfin, ouais, ils sont de plus en plus présents. Et oui, avant, ils nous demandaient de bouger et tout, mais c'était pas aussi systématique. Là, ce que je vois, c'est que, ouais, ils sont vraiment au taquet et ils arrivent des fois à 15 sur une ou deux personnes pour dire de bouger. Enfin, voilà, c'est.
Depuis avant l'été?
Depuis la rentrée, surtout depuis Mika, quoi. Quand on voit qu'ils étaient plus de 10 policiers sur lui. voilà, pour lui dire de bouger, pour lui dire de pas, parce qu'il avait une bière, enfin voilà, enfin c'est un truc de malade. Ils ont été, il me semble, 12 sur lui pour lui dire de partir, quoi, donc voilà.
Mais du coup, le scandale de cette histoire-là, parce que quand même, on a un peu entendu en parler dans les journaux et tout, il y avait plein de gens qui étaient quand même un peu remués, quoi, par ce truc-là, je veux dire, même des gens qui vivent pas dans la rue.
Ouais, non, ça a touché pas mal de personnes, c'est vrai que il y a des gens d'un peu tous les milieux, de tous les âges qui se sont sentis concernés par ça, après que ce soit positivement ou négativement. En tout cas, ça a fait réagir.
Mais du coup, tout ce truc-là, ça a pas fait que les flics se sentent un peu moins à l'aise pour agir sur les gens, quoi. T'as l'impression que c'est le contraire, ils sont encore plus là.
Après, voilà, ça a pas forcément ouvert les yeux ni à la police, ni à la mairie, puisque aujourd'hui, il y a des lois, enfin, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont là pour séparer les gens, quoi, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, concrètement, il n'y a aucune amélioration de ce niveau-là, quoi. Alors que, bah, on peut se dire aussi que voilà, il y a eu des morts, c'est quand même grave, quoi, que les jeunes meurent dans la rue comme ça. On pourrait se dire, ils vont réagir, ils vont faire des choses pour ces gens-là, pour les gens qui sont encore dehors. Et non, en fait, c'est totalement le contraire. Ça fait pas l'effet inverse, mais presque. Il n'y a rien qui change, quoi. Donc,
Puis un truc tout court,
en fait, rue de la Libre, juste à côté de la Brioche Dorée, il y a ce grand mur blanc. En fait, il y avait une enseigne avant, je sais plus trop, enfin voilà, ils ont mis un grand mur pour plus que les SDF puissent s'asseoir et faire la manche. Et du coup, tout le monde avait mis un petit mot pour Mika, tout le monde avait mis des mots signés, avait écrit quelque chose, c'était le mémorial, quoi, on appelait ça comme ça. Et ils l'ont effacé, on a repeint dessus, ils ont réeffacé, on a repeint dessus, et c'est comme ça, ça dure comme ça depuis la mort de Mika. Et par exemple, rien que pour ça, on pourrait se dire la mairie pourrait arrêter de demander à ses employés d'arrêter d'effacer ce mur blanc, parce que de toute façon, qu'il soit blanc ou qu'il soit écrit.
Parce que c'est même pas un mur, non, c'est les vieux trucs de placo.
Ouais, c'est ce truc de placo qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et non, ils l'effacent alors que.
Mais je pense que ça les gêne aussi, parce que ce qui est écrit sur ce mémorial, moi, quand j'avais lu les petits mots, c'était. Je sais pas, ça mettait vraiment en question, tu vois, la place de la mairie, la place des flics dans la mort de Mika, etc. Quoi,
ouais, je pense que c'est ça. C'est pas parce qu'il y a. Enfin, y a pas, c'est pas insultant envers la police ou quoi que ce soit. Enfin. Voilà, c'est pas insultant, et concrètement, pourquoi ils l'enlèvent, quoi. Et oui, je pense que c'est ça, ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes qui passeraient dedans et qui diraient, bah oui, tiens, ils ont pas tort, quoi, et du coup, bah tiens, on va l'effacer, quoi. Alors que c'est là pour ouvrir les yeux aux gens, mais c'est aussi là pour les gens qui sont morts, donc...
Mais du coup, je savais pas que les flics, ils étaient quand même encore, enfin,
aussi présents,
ou tu vois... Parce que là, est-ce que tu dis, on dirait effectivement vraiment que c'est une politique, enfin, que cet été, il y a quelqu'un qui a dit, bon, allez, maintenant, on sert à la police.
C'est clair, c'est sûr que ça, c'est ça. Voilà, et même s'il n'y a pas... ils viennent nous parler 4-5 fois par jour, il y a aussi... ils vont passer, une ou deux fois toutes les heures devant nous, et ouais, on se demande aussi, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir, est-ce qu'on va devoir partir. Enfin, voilà, c'est... Même si ils viennent pas non plus toutes les heures nous interpeller et tout, il y a aussi cette pression de savoir, est-ce que je vais devoir bouger, est-ce que... Voilà, c'est vrai que ça devient de plus en plus présent. Et,
Mais du coup, quand tu te poses à un endroit, tu te dis, est-ce que les flics ils vont venir à cet endroit-là? Il y a un truc de chercher des endroits où les flics ils vont pas venir, par exemple.
Ouais, mais au bout d'un moment, les gens aussi en ont marre, et du coup ils restent, et puis ils disent non, quoi, on reste ici, et puis point barre, quoi. Ouais. Sauf que,
Et c'est quoi les raisons pour lesquelles ils viennent vous voir?
Enfin, les raisons, on va dire,
officielles, quoi, les trucs qui...
Officielles, c'est voilà, bon, il y a une bière qui traîne, ou alors, faut pas se mettre devant telle enseigne de magasin, faut pas se mettre devant tel magasin, faut pas faire ça, ou alors on est trop nombreux. Enfin, voilà, c'est des raisons un petit peu, comme je dis, officielles. Je pense que juste concrètement, ben, ça dérange, quoi, qu'on soit devant les Galeries Lafayette, ou ça fait pas propre qu'on soit dans la rue de la Liberté, alors que, par exemple... Enfin, je sais pas, il va y avoir un événement, il va y avoir des concerts ou des trucs comme ça à côté, des événements culturels qui vont se passer juste à côté, donc forcément ça va déranger. Ou voilà, cet été ils étaient beaucoup plus présents, la police a agi beaucoup plus que d'habitude, enfin ça c'est mon point de vue, mais ouais, parce que je pense qu'il y a eu des touristes, enfin il y a des touristes l'été à Dijon, et puis ça faisait pas trop propre qu'il y ait des marginaux dans la rue, quoi. Donc moi, mon point de vue, c'est que eux ils voudraient qu'on se cache, quoi, mais quand on leur demande qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller, enfin voilà, il n'y a pas de solution non plus qui s'offre à eux. Ils n'ont pas réponse, ils n'ont pas de réponse à ça, donc faut se barrer, quoi. Mais voilà, ils savent pas où est-ce qu'il faut se barrer, quoi.
Ils disent rien quand tu leur dis, bah ouais, mais on va où
Bah concrètement, enfin, j'ai déjà posé la question à un policier municipal qui m'a clairement dit que voilà, qu'il fallait travailler et tout ça, quoi. Donc c'est là un peu la réponse qui qui arrive souvent quand on demande qu'est-ce qu'un marginal doit faire. Et voilà, enfin, il n'y a déjà pas de boulot pour les gens qui ne sont pas dans la rue, donc j'aimerais bien savoir comment ils font ceux qui sont dans la rue pour en trouver, quoi.
Enfin, du coup, c'est pas tant un truc de l'endroit où t'es que de, je sais pas, ce que t'es, quoi. Parce que si tu dis, bah, où est-ce qu'on peut être et qu'on te répond, bah, il faut travailler. Ouais, c'est on te répond pas à où est-ce que tu peux te poser dans la rue, quoi. Ils veulent juste pas que tu sois dans la rue.
Ouais, c'est exactement ça. Puis voilà, il faut pas que le tout monte, parce que sinon c'est agression, sinon on s'emporte, sinon on est en colère, sinon on est mal éduqué, enfin... Voilà, quoi. Et en général, il y a certains policiers qui aiment bien jouer à ça, quoi, enfin...
C'est les flics municipaux en général qui viennent vous voir ?
Ouais, surtout les municipaux, quoi.
Ah ouais ?
Moi, je vois, on avait des amis à moi avaient été interpellés. J'étais avec un ami juste à côté, quoi. Et mon ami à côté était posé contre un mur et adossé contre le mur, avec le genou un peu relevé, le genou posé sur le mur, quoi. Et genre, le policier lui dit ouais, tu sais pas te tenir, tu peux pas te tenir correctement. Enfin, mon pote, il lui dit bah, je me tiens comme je veux, quoi. Enfin, voilà. Et il lui a dit en gros, ouais, on t'a mal éduqué, quoi. Si t'avais une meilleure éducation, tu te tiendrais pas comme ça, quoi. Donc ils cherchent un peu comment dire, la confrontation. Je dis pas tous, quoi, je fais pas la généralité non plus, mais il y en a quelques-uns qui aiment bien ça. Et le truc, c'est que moi, je lui avais dit que là, clairement, pourquoi vous réagissez comme ça, quoi, c'est un peu irrespectueux. Et en gros, il m'a traité d'hippie, utopiste, et il m'a dit d'aller écrire un livre, quoi. Donc j'ai fait écoute, voilà. Enfin, j'ai pas voulu non plus trop ouvrir ma bouche, quoi, mais au bout d'un moment, c'est saoulant, quoi. Et voilà, on se sent désarmé, quoi, aussi. Ils usent un peu de leur pouvoir.
Danse, pétendre. Ça va pas, bon zéné. Je revois mon travail.
Là, c'est trop tard. Regardez là-bas, dans votre bureau. C'est Rénal Dupillon, fils du fondateur du Grand Litier.
Je suis le plus vieux punk caché en Europe. Et croyez-moi, c'est pas évident. Je suis libre, mais j'en bave. Parce que c'est pas facile de pas tomber dans l'alcool. C'est pas facile de faire la manche à des gens pauvres. C'est pas facile d'être jeté par les femmes. C'est pas facile d'être seul, en fait. Alors, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que maintenant, il y en a marre. Il y en a marre, il faut que ça cesse, parce que vous êtes comme moi. Vous êtes mal payés, vous êtes mal considérés. Là-haut, il n'y a plus personne qui s'occupe de vous. Il est temps que la meute hurle, parce qu'on est tous des punks à chien. Tous. Alors, si comme moi, vous voulez taper un grand coup, rendez-vous ce soir au parking, à l'ancien parking du Roi Merlin, à 20h. Vive la République !
Il faut... Ouais, concrètement, aujourd'hui, ce serait bien que les choses changent, que les marginaux soient un peu plus tranquilles, politiquement parlant. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais... Faudrait qu'ils soient un peu plus tranquilles, et voilà. Mais,
tu veux dire qu'ils arrêtent justement d'être harcelés par la police,
Ouais. Parce que tout le monde va péter un plomb, sinon là, il y a... La plupart des gens, en fait... gens de dites la zone, voilà, partent de Dijon parce que ça devient invivable, quoi, ça devient...
De toute façon, c'est ça le but de Sylvain.
Ouais, et puis ils y arrivent, parce que les gens sont à bout et ils partent, et c'est dommage, quoi. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette... Enfin, voilà, c'est un peu utopiste comme idée, quoi, mais qu'on se mette tous ensemble, qu'on serre un peu les coudes, et puis qu'on dise stop, faut arrêter, quoi. Parce que, et je pense qu'aussi, il faut que les gens sachent que ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver... dans la rue du jour au lendemain, et voilà, faut faire quelque chose pour qu'en tout cas ça soit plus simple et que les gens puissent, s'ils le veulent, s'en sortir.
Voilà. Mais il faut pas qu'ils partent, quoi, tous ces gens là parce qu'il faut pas qu'ils laissent les Dijonais avec juste les vitrines, les magasins et les flics.
Non, mais c'est clair. Je pense que les gens ont un peu l'impression de tourner en rond aussi, et que rien ne changera, et Et c'est dommage de penser ça, quoi. C'est vrai qu'il faut rester un minimum optimiste et tout, mais c'est vrai qu'après tous les gens qui sont décédés, c'est un peu dur de rester optimiste. Et la pression policière qui est de plus en plus grande et tout, les gens, je crois qu'ils n'ont plus vraiment envie d'être optimistes et ils ont juste envie d'aller chercher un idéal autre part, quoi. Après, c'est dommage de devoir partir et de plus, entre parenthèses, vouloir combattre contre ça ici, quoi. Mais, moi, c'est tout à fait respectable aussi, et c'est aussi aux gens autres que marginal ou galériens ou ce que vous voulez, d'ouvrir les yeux, quoi. Mais ça, c'est un combat plutôt dur, je pense. Ouais.
Moi, je me dis qu'il y a un truc à faire aussi autour des arrestations, quoi, et de justement ces interpellations de flics. S'il y avait plus de gens qui s'arrêtaient aussi au moment où les flics ils vous parlent.
Non, mais c'est
juste
clair.
De savoir que t'as toujours le droit, en fait, dans la loi, d'observer une interpellation, que les flics souvent ils disent de dégager, qu'en fait c'est pas vrai.
T'as le droit de filmer aussi.
T'as le droit de les filmer, ouais. Et t'as le droit de leur demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils ont le droit de le faire, etc. Et aussi si on le faisait tous un peu plus, peut-être aussi se sentirait un peu plus observé, et puis que nous on se sentirait plus fort.
Ouais, carrément. Sans ça. Ouais. C'est clair.
Bon, bah salut Marie.
Salut, merci de m'avoir invité ici, de m'avoir écouté.
Ne pas trop là.
Et nous voilà de retour sur le plateau de Radio Campus, un plateau un peu intimidant, qui reste quand même toujours un plateau, quoi. Et voilà, on a écouté super montage fait par Sandy, avec Marine qui a été enregistrée.
Et puis ce qu'on entendait, c'était des extraits du Grand Soir, le film avec Poulvord et Dupontel. Et les musiques, c'était Inadapté, de Brigitte Fontaine, qui est à la fin de ce film. Tout à la fin, c'était Robotnichka, je crois qu'on dit. Et c'était L'Espoir. Et voilà. Et les extraits aussi qu'on entendait, à un moment, on entendait d'autres gens que Marine et moi parler. C'est des petits bouts qui sont tirés d'un documentaire d'Arte. Voilà. Et on remettra tout ça sur tvnr.noblogs.org.
Voilà. Et maintenant, on va passer donc à décortiquer ces petits dispositifs qui organisent notre vie et nos villes. Et donc on revient sur la question de la prévention situationnelle, avec tout d'abord un petit enregistrement de Jérôme Torel, qui a écrit un livre Attentif ensemble, l'injonction au bonheur sécuritaire, et qui explique un peu ce que c'est pour lui que la prévention situationnelle.
pense que voilà, c'est une question de technique, de loi et d'usage. Et en fait, on se rend compte que dans l'espace, on est vraiment fliqué et notre comportement est fliqué dans l'espace. C'est-à-dire que les flux sont régulés, quoi. On est du putain de bétail, quoi. Faut arrêter de penser que voilà, l'escalator, on l'a mis là parce qu'il était beau, quoi. Hein, et le trottoir, on l'a mis à, je sais pas, 5 cm et pas à 3. Tout ça, c'est calculé pour justement pour que les flux de bétail humain soient mieux contrôlables, mieux anticipables, là aussi. Depuis la loi Pascua de 95, la première grande loi sur la sécurité en 95, cette loi est présentée souvent comme étant la loi qui prévoit la première fois la vidéosurveillance dans l'espace public. Donc c'est la première loi qui légalisait en fait les caméras qui étaient plus longtemps installées, mais pas du tout légales, pas du tout officielles. Cette même loi, en 95, janvier 95, institue la première fois aussi ce principe de faire des études de sécurité, des diagnostics de sécurité dans tous les projets d'aménagement. Alors que ce soit une place, un petit jardin public ou un immense bâtiment de bureau, quoi. Et chaque projet politique qui déplace, reconstruit, reconfigure l'espace public, entre guillemets, ça doit faire l'objet d'une étude préalable. L'architecture de prévention situationnelle, c'est un moyen aussi, quand on décortique vraiment, on se rend compte à quel point finalement tout ça, voilà, c'est une espèce d'étau, quoi, qui nous et toutes les techniques sont bonnes maintenant pour voilà, on casse, quand on réhabilite jamais pour le bienfait des le bien des citoyens et des habitants. Généralement, c'est plutôt pour assurer aux hommes du pouvoir et aux différents vecteurs du pouvoir de s'immiscer encore mieux dans l'espace en cas de problème, quoi. Donc voilà, comment les forces de police vont mieux pénétrer sur une place au milieu des bars, comment le positionnement des bancs ou l'absence de bancs justement va permettre d'assurer comme une espèce de surveillance de contrôle des populations sans qu'elles le sachent, c'est-à-dire qu'en fait on va reconfigurer les espaces pour que les gens se regardent alors qu'avant ils se regardaient plus, pour justement pour éviter que voilà que certains puissent se cacher. On va supprimer des chicanes, on va mettre en place de la végétation dissuasive, donc les plantes sont énormément ça c'est génial parce que c'est une manière de dissimuler des obstacles, mais ou alors de supprimer des choses qui servaient pour se cacher, tu vois. Donc maintenant des bacs en béton, hein, de revégétation qui peuvent être piquantes pour justement que les gens puissent pas s'y mettre, quoi. On va se démerder pour que tout ce qui est situation assise soit aboli, hein, sur les entrées d'immeubles, les rebords de fenêtres, dans les espaces publics, ça peut être aussi des grosses pierres, tu vois, qui font assez mal quand on s'assoit, alors qu'avant ça pouvait être une barrière en bois.
Voilà, là, bah, il parlait des bancs, là, je viens tout de suite dessus. Par rapport à Michel Julien, dont on parlait en début d'émission, qui lui aussi fait une lubie sur les bancs, là. Qui voulait refaire les bancs de la place Wilson pour que les rendre un peu plus inconfortables et qu'ils ne puissent pas être squattés par d'éventuels zonards. Ils réfléchissent aussi à ce qu'ils peuvent bien refaire autour du kiosque parce que c'est un lieu d'accueil trop ostensible pour ces gens-là. Et donc voilà, mais ça c'était des aspects qu'on avait déjà évoqués dans une précédente émission sur la prévention situationnelle, enfin on parlait de la prévention situationnelle, ce qu'il dit là, c'est-à-dire à la fois comment c'est tourné contre les indésirables, c'est-à-dire les zonards, les sans-abri dans le cas de l'émission actuelle, mais pas que, hein, aussi la délinquance dans les quartiers, enfin ce qui est assigné à la délinquance dans les quartiers, ça peut être également... Tout lieu d'activité culturelle, quel qu'il soit, ça peut être tourné simplement dans le but de favoriser les flux. Et donc il y a cet aspect à la fois préventif, c'est-à-dire éviter que quelque chose arrive, que quelque chose d'inattendu arrive, favoriser les flux, éviter toute forme de délinquance, toute forme de débordement, toute forme d'inattendu, quoi. Et un aspect répressif qui est... si quelque chose arrive, faciliter l'intervention des forces de l'ordre. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'un cas assez connu, celui de Villiers-le-Bel, où il y avait eu des émeutes importantes, après les émeutes importantes qu'il y avait eu en 2008, si je ne me trompe pas, ils avaient, pour éviter que les gens s'agrègent, c'est-à-dire l'aspect préventif, ils avaient construit au milieu de la cité un carrefour routier, et qui avait donc cet aspect préventif d'éviter que les gens puissent se rencontrer facilement. Et un autre aspect qui était celui de faciliter l'intervention des forces de l'ordre, parce que quand tu as un carrefour au milieu du quartier, ben, les camions de police peuvent intervenir très facilement au cœur de la cité. Voilà, et donc maintenant, pour aller un peu plus loin sur cette question de la prévention situationnelle, puis on peut-être même en finir, avec, finir en tout cas pour ce qui est discursif, parce que malheureusement, ce qui est pratique... Ça va être un travail acharné d'occupation et de manière d'habiter les rues qui est pas prêt de finir. Mais pour ce qui est donc de le présenter et d'en discuter, juste il faut savoir que cette architecture de prévention situationnelle, cette idée-là, elle est apparue pour Jean-Pierre Garnier, là, qui est un de ses principaux présentateurs et contradicteurs. Elle est apparue dans le sillage de l'arrivée au pouvoir de la petite bourgeoisie post-68arde, donc qui arrive au pouvoir avec Mitterrand dans les années 80, et qui est omnubilée par deux logiques qui sont, pour lui, qui sont, et c'est pas faux du tout, qui sont le spatialisme et le localisme. Alors le spatialisme, c'est penser qu'on va régler les problèmes sociaux et les problèmes des gens et améliorer la vie des gens simplement en bouleversant là où ils vivent et comment ils vivent, comment ils sont agencés, répartis sur un territoire. C'est une très vieille idée et qui a montré ses limites, qui était que par exemple dans la gauche des années 80, ils pensaient que le problème des quartiers populaires, c'était les grands ensembles. C'est-à-dire que s'il y avait plus les grands ensembles, en fait les problèmes ça pèserait quoi. Et donc en fait ils agissent sur la misère elle-même, comment l'estomper, et pas du tout comme certaines personnes y ont cru jusqu'au début des années 80, en chamboulant les structures mêmes dans lesquelles sont prises nos vies et étaient prises les vies, et qui auraient pu véritablement bouleverser un peu les choses. Et donc ça c'est pour le spatialisme, et pour le localisme c'est une autre idée, c'est en fait l'idée que c'est l'idée small is beautiful, c'est-à-dire que tout ce qui est petit, tout ce qui est gadget, tout ce qui est miniature, c'est on en fait une lubie et on sait plus parler que de ça. Et donc ça c'est pour l'aspect matériel, mais dans le champ intellectuel c'est aussi le cas, puisque de plus en plus fréquemment on s'intéresse à l'étude microéconomique, microsociale, micropolitique, enfin le micro par opposition au macro, qui est ennuyant, dépassé, parce que ça renvoie aux grandes idéologies, aux grandes pensées d'ensemble, aux grands discours, qui donc seraient vraiment des critiques sociales ou politiques, dont les implications en tout cas sont directement politiques d'ensemble. Et donc ça a été abandonné. On préfère penser les effets et pas les causes, quoi. C'est aussi, pour ce qui est structurel, c'est la disparition des services, des institutions de masse, des grands ensembles. Et tout ça, on le voit vraiment, cette transformation et cet intérêt plus que omniprésent pour tout ce qui est petit et donc tout ce qui est du détail. Et ce qui malheureusement est une forme de renoncement à la politique et une injonction à ce que les gens renoncent à la politique, puisque ils abandonnent le fait de aussi en même temps s'organiser, discuter et de comment bouleverser l'ordre des choses. Et l'ordre des choses, c'est pas du détail, c'est très général. Voilà. Et ce qu'il faut, ça c'est pour l'origine. Ce qu'il faut, ce qui est important de ce qu'on peut discuter maintenant avec Sandy, ce qui serait important de voir, c'est quand même que, surtout la prévention situationnelle, c'est une erreur, pas parce qu'elle ne peut pas résoudre les problèmes, pas parce qu'elle n'arrive pas à gouverner les effets de ce à quoi elle s'attaque, pas pour ces raisons-là, mais parce que en fait elle conduit les décideurs dans une impasse, parce que et entendu les décideurs, c'est-à-dire les aménageurs et les administrateurs de l'existant. Pourquoi elle est conduite dans une impasse? Déjà parce que avec cette idée du spatialisme là, donc qui est la prévalence de la question spatiale sur la question sociale, et qui a conduit aux politiques de la ville, on a vu, ça a été un échec, la politique de la ville pour résoudre les conflits sociaux n'a absolument pas marché. Les problèmes, enfin, dits problèmes des banlieues ou crises urbaines sont bien plus graves qu'aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et c'est dire. Et ça, c'est pour une bonne raison, c'est une erreur, parce que l'architecture ou l'habitat ou l'organisation de l'espace, c'est des choses qui sont statiques, et que la vie, par définition, c'est dynamique, que c'est perpétuellement en mouvement, que c'est imprévisible. Et du coup, en voulant conformer notre environnement et penser que ça va nous changer, ça marche pas comme ça, parce que les gens sont bien plus inventifs et immaîtrisables que ça. Voilà, donc et déjà ce qu'on peut imaginer, c'est composer ou détourner ces dispositifs de prévention situationnelle, voire même les retourner. C'est le cas par exemple avec les SDF et puis les bancs, tout ça.
Ouais, il y a un petit film qui s'appelle Le repos du fakir, dans lequel on voit par exemple quelqu'un qui s'est amusé à essayer de dormir tous les dispositifs anti-SDF.
Ouais, ce qui est assez fou, quoi. On peut très bien en faire ce qu'on avait déjà évoqué aussi il y a deux émissions de ça, c'est-à-dire faire du mobilier créatif, quoi, transformer tel ou tel dispositif qui est censé nous contraindre à faire ceci en quelque chose de complètement inattendu et en une passerelle vers autre chose. Ce serait le cas par exemple d'une place complètement vide, mais qui en même temps peut s'avérer un lieu parfait pour faire un camping ou que sais-je. Ça a été le cas en tout cas au moment de l'occupation des places un peu partout dans le monde. Et pour des exemples encore plus vieux, il y a le plus grand exemple qu'on peut avoir de prévention situationnelle, c'est la refonte des quartiers de Paris par le baron Haussmann, et où il a refait toutes les grandes axes pour éviter les insurrections, sauf que ça a pas marché du tout, ça a pas marché. Pendant un temps, ça a marché parce que la commune de Paris a été écrasée, mais Blanqui, à cette époque, lui, il disait que ce réaménagement des rues, il pourrait tout autant servir les insurgés, parce que les flots d'insurgés en cas d'un soulèvement pouvaient très facilement se déplacer dans ces rues, que en même temps, il y avait une nouvelle, c'est vrai que l'espace avait une nouvelle allure, mais qu'il était aussi tout aussi utilisable et qu'il recelait tout autant de possibilités. Et enfin, ce qui va nous amener à la dernière étape, c'est pour ce qu'on peut faire avec ces, enfin, en quoi il faut pas non plus donner trop de force à cette prévention situationnelle. C'est que même dernièrement, là, une rue lisse, calme et passante de Dijon peut servir d'une très bonne salle de cinéma, et que malgré la présence plutôt repoussante d'un arbre en pierre qui a été ébranché et effeuillé et qui n'est censé que représenter la stérilité de la rue, eh ben on arrive quand même à pouvoir faire vivre ces endroits-là, quoi. N'est-ce pas ?
Et ça, c'était jeudi dernier, dans la rue de la Liberté, ouais, exactement. Il y avait une très belle salle de cinéma aménagée ce soir-là. Oui, parce que c'est le... Je repense à tout ce que tu disais avant. C'est sûr que c'est le contre-coup du fait que la prévention situationnelle, c'est une violence douce. Enfin, on entend beaucoup de gens dire ça, quoi, que c'est quelque chose dont les gens se rendent même pas compte, comment ça dispose les choses, etc. Que c'est pas de l'ordre de la répression. Ça, c'est plutôt l'autre pendant, celui dont Marine parlait avec les flics, etc. Mais que c'est quelque chose de doux, je sais pas comment on pourrait dire, qui contraint pas, en tout cas. Et du coup, l'autre pendant de ça, c'est du coup que c'est assez simple de s'en défaire une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on a envie de le défaire, quoi, justement, quoi. Mmh. Que du coup, en fait, il faut pas grand chose pour décider de foutre une planche sur des pics et puis de se réinstaller à un endroit où on était. Ou alors effectivement, comme je dis, de se dire bah en fait dans cette rue on n'est pas censé que y circuler, tout a été aménagé pour qu'on y circule, mais en fait si on décide qu'on n'a plus envie de le faire, il suffit de s'y installer quoi.
Ouais.
Il reste toujours voilà.
Mais ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un échec un peu programmé et c'est ce qui nous laisse plein d'espoir. Après je dirais pas que c'est doux, je pense que c'est extrêmement violent, mais par contre c'est invisible quoi. C'est là, ça nous tord, ça nous discipline sans qu'on s'en rende compte.
Ça dispose quoi.
C'est ça.
Ça nous dispose, mais ça nous contraint pas quoi. Enfin, c'est un rapport différent à la soumission quoi. Ouais. Mais du coup, effectivement, jeudi dernier, c'était une très belle salle de cinéma. Et puis, il y a eu un petit problème technique durant la séance. Et le film n'a pas été terminé d'être visualisé. C'était enfermé dehors, justement, pour parler aussi un peu, à ce moment-là, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de la vie dans la rue, etc. Et du coup, il a été annoncé que la suite serait jeudi. Du coup, tous ceux que ça intéresse de voir qu'est-ce que ça donne de se rassembler, de mater un film avec du pop-corn dans la rue, ce
et
sera de nouveau jeudi soir. Ce sera de nouveau jeudi soir, ouais, sûrement avec du vin chaud. Il y avait du vin chaud jeudi dernier. Avec du vin chaud et des pop-corn pour être un peu aussi avec les gens qui vivent dans la rue et puis vivre un peu ensemble cette rue là quoi. Voilà.
Ouais, non, c'était vu de loin, ça semblait une très belle expérience et voilà, elles sont appelées à se multiplier et elles montrent que voilà, l'espace est en fait complètement libre de nos envies et qu'on peut y déployer un tas de possibles insoupçonnés. Voilà.
Voilà, on va se quitter.
Il faut bien.
On va écouter Sois feignant, c'est ça ?
C'est ça,
Sois
de Infraction.
Infraction. Et vous retrouvez toute l'émission sur le blog qui s'appelle tvnr.noblogs.org. On mettra les références de ce dont on a discuté, puis on remettra les montages et les musiques. Voilà, et on se retrouve dans 15 jours. Et la semaine prochaine, c'est Terrain Vague. Et puis, on espère se croiser avant ça, jeudi soir, pour mener un peu la première contre-attaque ensemble aussi à tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de disséquer. Voilà, au revoir.
Salut à tous.
tu seras pas un gosse de riche, ça feignant, ça feignant. Oh.